Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut à tous et bienvenue dans Mercredi Mercato. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. C'est un homme de parole, c'est un homme de conviction. Il défend sa vision, celui d'un football soyeux. Adepte de la secte TJ Savanier, il aime le crochet plutôt que le tac à la gorge. Sur le terrain, c'est un peu la même chose, même si son corps a du mal parfois à suivre sa tête. C'est un homme droit dans ses bottes, ou plutôt, devrais-je dire, droit dans ses chaussons. Car ce mercredi, il a tenu sa parole et décidé de présenter l'émission dans ses jolis petits souliers molletonnés. Il a perdu au Merca Quiz la semaine dernière, a reçu un gage et se présente donc face à vous dans son plus bel appareil. Alors si vous nous écoutez en podcast, allez faire un tour sur le Facebook d'Eurosport pour contempler la beauté de ses chaussons grisâtres si bien portés. Et s'il fallait une incarnation du swag ce mercredi, je pense que vous l'avez devant vos yeux. Comment ça va, Cyril Morin?
Je suis gêné, Martin. J'ai presque envie de rougir. J'ai l'impression que tu parlais du général de Gaulle qui tenait des paroles. C'est juste que j'ai mis des chaussons pour présenter l'émission.
Tu vas nous les montrer d'abord.
Allez, on va les montrer parce que faut prouver aux gens qu'on tient les paroles.
Donc, en chaussons, mais même ma grand-mère, elle n'est pas en chaussons.
En plus, c'est vraiment des chaussons molletonnés. On ne dira pas la marque. Mais voilà.
C'est une catastrophe. Rapproche-les de la caméra, s'il te plaît. Vraiment, si vous nous suivez en podcast, allez faire un tour sur notre Facebook parce que là, ça vaut le coup.
Ce sera l'unique vision qu'auront nos internautes.
Est-ce qu'on peut les faire gagner?
Non.
Mais en même temps, je pense que si tu dis que tu fais gagner les chaussons en partageant.
Ouais, je pense que le partage est négatif.
Sur Facebook, les gens se désinscrivent. Les gens arrêtent l'Internet. C'est terminé. Aussi des chaussons, pas quel âge, Cyril.
Ouais, on va pas refaire le débat, Martin. Sache que mon appartement est mal isolé. On peut tout de suite enchaîner sur le menu de ce mercredi mercato qui ne parlera pas de chaussons, c'est promis, mais de grands noms. On va commencer évidemment, Martin, avec le dossier qui anime toute la canebière. C'est évidemment l'arrivée prévue de Milik dans les jours, dans les heures, dans les minutes qui viennent. Est-ce que l'OM a enfin trouvé chaussons à son pied pour le poste de grand attaquant?
Il prépare tout ça, parce que vous, ce que vous ne savez pas, c'est que derrière, il a une armée d'auteurs, Cyril. Une armée d'auteurs. Ah mais pour les vannes, pour tout. Il a une équipe de 15 personnes dans la Silicon Valley qui lui prépare tous ses textes à Cyril. C'est dingue, c'est dinguissime. Il est fou, il est dingue. Deuxième sujet, Cyril, parce qu'il faut bien enchaîner quand même.
Bien sûr.
Parlera de Degarde et d'Alaba. Le chassé croisé qui dit tout du Real, qui va sans doute mettre la main sur un des meilleurs défenseurs du monde. Mais peut-être laisser partir aussi un de ces jeunes joyaux auxquels il n'a pas forcément donné sa chance. Et on terminera, Cyril, avec un petit top 5 dont tu as le secret.
Parce que Alaba libre sur le marché, c'est un gros poisson qu'il est quand même très très rare de trouver dans cette situation contractuelle là. Donc on s'est amusé, top 5 historique des joueurs transférés libres. Vous verrez qu'il y a du beau monde et que ce n'est pas si récent que ça finalement. Et évidemment, Martin, dans ce mercredi mercato, il y aura toutes les séquences habituelles avec le tutu de Manon Longeon et des infos exclusives concernant des clubs du sud de la France. Et on terminera évidemment avec la revanche du Merca Quiz. Quentin Guichard, notre graphiste de talent, qui va nous interroger dans le traditionnel Merca Quiz.
Notre graphiste, on va dire. On remercie aussi Adrien qui réalise cette émission avec un peu de peine parfois, mais bon, voilà, il fait ce qu'il peut, le pauvre. On démarre.
Cyril,
on y va.
Ouais.
Et on va parler de Milik. Et alors, pour parler de Milik, on va rejoindre notre Italien préféré, celui qui nous chante la chatte mi cantare au réveil, celui qui met la penne juste comme ça, tac, la petite penne juste au-dessus du spaghetti. C'est notre Italien préféré, spécialiste du mercato, spécialiste de la Serie A, spécialiste du marché italien, qui va évidemment nous parler de Milik et nous dire si c'est une bonne affaire pour l'OM. Comment ça va, monsieur Guillaume Maillard-Pacini?
Bonjour Martin, bonjour Cyril, bonjour à tous, ça va très bien. Très bien, très heureux d'être avec vous pour parler d'un dossier qui est chaud, voire brûlant, mais qui a encore un peu de mal à se conclure.
Alors justement, on va commencer là-dessus, Guillaume. Quels sont les derniers points d'accroche pour l'arrivée de Milik à Marseille? On sait que les clubs sont a priori d'accord, Milik est d'accord avec l'OM, mais ça bloque encore entre Milik et le Napoli, c'est bien ça?
Écoute, ouais, c'est exactement ça. Alors à mercredi, aux alentours de midi et demi, parce qu'on enregistre là, à l'heure actuelle, l'accord était trouvé entre l'OM et le Napoli, entre l'OM et Milik. Alors qu'est-ce qui manque? Parce que quasiment tous les accords ont été trouvés. En fait, il manque une chose, c'est que le Napoli et le président De Laurentiis, qui est assez, ouais, assez particulier, assez sulfureux, et Milik ont des contentieux judiciaires, deux plaintes notamment, une à cause de la mutinerie qu'il y avait eu au Napoli à l'époque d'Ancelotti en 2019, et une autre plainte qui vise Milik, et De Laurentiis a quand même 1 million d'euros à Milik pour en fait une question de droit d'image. Milik avait un restaurant, pour faire simple, et a utilisé son image pour en faire la publicité, ce qui n'est pas autorisé par le Napoli. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose hors foot qui bloque ce transfert. C'est peut-être une première dans l'histoire du Mercato, mais pour le coup, c'est vraiment une question judiciaire pour l'instant qui va essayer de se résoudre, on espère, pour l'OM et le Napoli dans les prochaines heures.
Alors, Guillaume, si ça se résout, ce qu'on a envie de savoir, toi qui suis la Serie A depuis ta plus tendre enfance, Marseille a misé sur quelques attaquants ces dernières années. Ils n'ont pas trouvé le profil qu'il leur faut. Ils sont allés chercher des joueurs plus ou moins connus. On pense à Benedetto, etc. Milik, qu'est-ce que ça vaut? Et notamment pour l'OM, qui, rappelons-le, n'est pas non plus un club installé en Ligue des Champions.
Écoute, Martin, c'est simple. Milik, c'est un gros coup. C'est un gros coup pour une raison simple. C'est que si tu reviens à l'été 2019, la Juve avait trouvé un accord pour Milik, pour le recruter, mais pas avec le Napoli, donc ce n'était pas fait. L'été dernier, donc on parle d'il y a 4-5 mois, Milik était en passe de signer à l'AS Rome, et finalement, ce n'est pas fait encore une fois. Là, le joueur n'était pas très enjoué d'aller à la Roma, mais on parle d'un joueur qui était courtisé par les plus grands clubs italiens, qui avait quand même un accord avec la Juve, sauf que la Juve, contrairement à l'OM, elle voulait attendre l'été prochain, parce qu'il est en fin de contrat, il faut le rappeler, ouais. Et voulait le récupérer en gros gratuitement. Sauf que l'OM, de son côté, a visiblement besoin d'un attaquant maintenant. Donc, on va dire que l'OM fait un effort financier que d'autres clubs aujourd'hui ne sont pas prêts à faire au mois de janvier, surtout dans un contexte économique comme aujourd'hui. Par contre, l'OM, à mon avis, n'aurait pas eu la même chance l'été prochain parce que tous les gros clubs auraient voulu recruter Milik gratuitement. C'est un grand attaquant. C'est le fameux grand attaquant que recherche l'OM. Après, sur le terrain, c'est là qu'il devra le prouver. Mais en tout cas, en Italie, c'est un joueur qui a mis ses buts alors qu'il y a eu deux grosses blessures qui l'ont un peu freiné dans son ascension. Mais en tout cas, personne n'aurait pu imaginer Milik à l'OM il y a encore un an. Et même il y a encore quelques mois. C'est vraiment un gros coup pour l'OM.
Guillaume, tu nous garantis pour l'Olympique de Marseille que c'est un joueur qui va marquer 15-20 buts régulièrement par saison?
Pour moi, c'est un joueur qui, sur une saison, peut marquer ses 15-20 buts en Ligue 1, oui. Le problème, on a appelé sur ses stats. Alors, il n'a pas des stats complètement folles.
C'est pas si mal quand même.
Oui, c'est pas si mal, mais je veux dire, c'est
jamais un alors, je rappelle juste, 52 buts en 140 matchs avec Naples.
Mais il faut rappeler qu'il s'est fait deux fois les croisés. Hein. Vraiment, une fois le droit, une fois le gauche, donc ça l'a vraiment freiné. Mais comme je vous ai dit, Martin Cyril, c'est quelque chose de totalement improbable. En Italie, personne n'aurait pu imaginer Milik signé à l'OM il y a un an, parce qu'il devait aller à la Juve, parce qu'il y avait un accord avec la Juve. Sauf que Milik a eu un coup de pression de la Fédé polonaise pour l'Euro en lui disant « si tu pars pas de Naples, tu joueras pas l'Euro ». Donc lui, il s'est senti un peu oppressé. Le Napoli a besoin d'argent parce que c'est un joueur en fin de contrat. Donc quitte à perdre Milik gratuitement, il préfère le vendre aujourd'hui maintenant pour un joueur qui a été mis au placard, on le rappelle, en début de saison. Et donc Milik, le joueur, a besoin de jouer. Donc c'est vraiment un transfert qui arrange les trois parties, qui n'est pas encore bouclé. Mais en tout cas, pour l'OM, c'est un gros coup à vérifier sur le terrain. Mais c'est vraiment un joueur que personne n'aurait pu imaginer à l'OM il y a encore un an, c'est évident.
Bah écoute, merci Guillaume pour ton expertise, tes lumières, ta coiffure aussi hein, pour ceux qui nous suivent sur Facebook. Parce qu'on sent, c'est un peu la course contre la montre, on sent que ça s'en va, mais on essaye de faire illusion quand même.
Exactement.
Non, c'est juste un hommage à Mauro Icardi, puisque sachez-le, Guillaume est surnommé Mauro Icardi dans la rédaction.
Voilà, exactement. Merci Guillaume en tout cas.
Merci Martin, merci Cyril.
Bisous. On va revenir Cyril peut-être sur ce dossier du grand attaquant et de l'OM. Parce que c'est vraiment ce qui plombe l'Olympique de Marseille depuis des années, depuis le départ de Bafé-Gomis à l'été 2017. Ouais. On rappelle, hein, Marseille se cherche un neuf efficace, un neuf qui s'inscrit aussi dans la durée, qui répond aussi à un portrait robot, un homme de surface, ouais. Parce qu'il y a, alors même si c'est un peu moins le cas cette saison, mais il y a quand même des mecs pour lui donner des ballons. Hein. On pense à Payet, on pense à Thauvin, on pense à Sanson, on pense à Rongier. Enfin, il y a quand même des joueurs qui savent jouer au ballon. Mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Il y a eu, alors il y en a eu hein, des attaquants qui sont venus à l'OM depuis 2017. Cyril, ouais. Valère Germain, Kostas Mitroglou, Mario Balotelli, qui lui peut-être est celui qui se rapprochait plus de ce profil-là parce que ça a marché.
Mais il ne s'est pas inscrit dans la durée. Voilà, c'est exactement ça, c'est le problème.
Benedetto qui est comme ça, enfin qui souffle le chaud et le froid depuis qu'il est arrivé, ouais. Et Luis Enrique qui ressemble pour le moment en tout cas à une vraie erreur de casting. Milik, ouais. C'est peut-être celui qui ressemble plus au grand attaquant tant désiré par l'OM depuis 3 ans.
Ouais, le vrai mot-clé là-dedans, c'est évidemment la durée. Moi, je suis d'accord avec toi, Martin. Si on ajoute la somme des buts de ces 5 mecs-là, c'est 70 buts en 4 saisons. Ça pèse quand même pas très lourd. Et le meilleur buteur de ces 5 mecs-là sur la période, c'est Valère Germain qui est à 31 buts, je crois. Donc, Mitroglou et Benedetto, c'est une quinzaine de buts. Tu l'as dit, Balotelli, c'est 8 buts. Mais vous voyez que 70 buts sur 4 saisons, bah, ça remplit pas le cahier des charges nécessaire pour être l'attaquant de pointe de l'Olympique de Marseille, à savoir garantir saison après saison 15, 20, voire des saisons où vous pouvez prendre feu et marquer 25 buts toutes compétitions confondues, 30 buts toutes compétitions confondues. Milik, c'est ce qu'on a vu, c'est l'assurance quand même d'un numéro 9 régulier qui va marquer et qui va faire son total. Alors, est-ce qu'il va transfigurer l'Olympique de Marseille ? C'est pas sûr, mais en tout cas, il va remplir le rôle que personne n'a su remplir dans la durée à Marseille depuis 2017.
Parce qu'il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs qui ont été faites. On va revoir un petit peu tous les attaquants qu'on a liés plus ou moins à l'OM depuis donc 2017 et le départ de Gomis, et cette fameuse recherche du grand attaquant qui est venu quasiment un mot du dictionnaire phocéen, ouais. En un seul mot, un grand attaquant évidemment. Il y en a eu plusieurs. On a décidé avec Cyril d'abord de se concentrer sur, on va dire, 5 noms qui auraient apporté une vraie plus-value à l'OM. C'est des noms qui ont été cités, c'est des pistes dans lesquels se sont engagés les dirigeants de l'OM, mais qui n'ont pas abouti. Je pense à Vincent Aboubakar, je pense à Olivier Giroud, je pense à Diego Costa, Moussa Dembélé et Wissam Ben Yedder. Alors bien sûr, c'est des pistes plus ou moins explorées. Je pense que Diego Costa a été moins exploré que celle de Moussa Dembélé. Mais ces 5 joueurs auraient apporté une solution à l'Olympique de Marseille et auraient permis d'arrêter de tourner autour du pot, en fait, et d'arrêter de se poser cette même question tous les 6 mois. Moi, si je dois retenir un joueur, j'en retiendrai allez, peut-être 2, parce qu'Olivier Giroud, c'était très difficile. C'est la volonté du joueur, en fait, hein, qui
a pas à Marseille.
Donc, à un moment, quand tu peux pas convaincre le joueur, bah, c'est compliqué. Hein, c'est pas de la magie non plus, le mercato. Aboubakar, moi, j'aime beaucoup, mais je voulais vraiment insister sur Moussa Dembélé et Wissam Ben Yedder, qui, eux, sont venus dans des clubs français. Moussa Dembélé, on sait que quand il est venu à Lyon, bah, c'était une bataille Lyon-Marseille. Lyon a fait les efforts que Marseille n'a pas pu faire. Et je pense que là…
Que Marseille a fait sur Kevin Strootman.
Marseille a fait exactement cet été-là sur Kevin Strootman. Et je pense que là, si tu fais un effort sur Moussa Dembélé, bien sûr, cette saison, aujourd'hui, Moussa Dembélé, c'est plus compliqué. Mais à Marseille, il avait le champ libre. Et c'était pour lui un vrai attaquant. Enfin, je pense que ça aurait cartonné. Ben Yedder, j'en parle même pas. Parce que finalement, il a coûté 40 millions d'euros. Oui, c'est cher. Peut-être que Marseille aurait eu du mal à réunir cette somme. Mais il y a eu des erreurs de fait, des erreurs de commises avec Mitroglou, avec Strootman. Il y a de l'argent qui a été gaspillé.
Ouais.
Si tout ça avait été investi sur un Wissam Ben Yedder, je pense que Marseille serait autrement plus fringant aujourd'hui.
Ce qui est intéressant, c'est que les cas notamment, alors Ben Yedder c'est encore à part, mais les cas d'Embélé ou Aboubakar auraient pu aussi remplir une autre fonction, celle de servir de l'OM comme un club tremplin pour derrière le revendre encore plus cher.
T'as raison.
Je pense évidemment au marché anglais. Donc, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Dembélé, pour moi, c'est le grand raté de l'ère héros et de ce grand attaquant recherché, parce que Dembélé, il remplissait tous les critères. Et l'OM a décidé de se concentrer davantage sur Kevin Strootman. Lyon en a profité, a récupéré Dembélé quasiment le dernier jour du mercato. Et derrière, bah, Dembélé, il est revendu. Alors c'est un prêt pour l'instant avec une option d'achat, mais 35 millions d'euros. C'est une très belle affaire et financière et sportive réalisée par Lyon que n'a pas su faire l'Olympique de Marseille, trop concentré et sur Mitroglou ou sur Strootman.
Alors, il y a eu d'autres pistes, parfois un peu baronnes.
Ouais, ça aussi, ouais, c'est,
alors, y a
c'est
eu
le serpent de mer ultime.
On en a choisi quelques-unes. Jovetic,
ouais.
Quand il est parti à Monaco, il était tout près de venir à Marseille. Je pense qu'il aurait pu rendre service, même si c'est vrai que physiquement, il y a des soucis, il y a des blessures. Moi, il y a eu Mandzukic, Wilfried Bony au début, souvenez-vous. Ouais. Alors, je pense qu'ils ont bien fait de pas aller trop loin dans cette piste-là. Il y a eu Baka, il y a eu Slimani. beaucoup de fois, Slimani, il y a eu Divock Origi, il y a eu Zaza, à un moment Zaza c'était très chaud aussi, Mbanyang l'été ouais. dernier, mais ils n'ont pas pu le faire parce qu'il était trop cher, voire Andy Delors dont on a beaucoup parlé. Ça c'est des pistes qui ont voilà, un peu moins été explorées, des joueurs qui auraient pu se rendre service, hein, je pense à Andy Delors, tu le prends il y a deux ans. Ouais. Franchement ça aurait pu rendre service, hein. Le successeur, alors pour moi il me fait penser à JPP, donc tu mets Andy Delors à Marseille, je pense qu'il t'enflamme le Vélodrome, ouais. C'est quelque chose de bien. Bref, il y a eu quand même beaucoup de pistes, ils ont choisi Benedetto, Mitroglou, Germain, Luis Enrique. Je ne suis pas sûr qu'ils aient fait tout le temps les bons choix,
ce qui est intéressant là-dedans et dans cette longue liste, et encore on n'a pas mis tout le monde parce qu'il y en avait d'autres, beaucoup d'autres, c'est qu'on a l'impression que à l'époque Zubizarreta était, en tout cas, l'OM était un petit peu volage dans ses pistes. Ils n'avaient pas vraiment de stratégie fixée. Et donc, ils allaient un petit peu sur tous les dossiers, voir comment ils pouvaient gratter. À l'inverse, Pablo Longoria est arrivé. Et bah, il voit que sur ce marché, il y a peut-être l'énorme coup Milik à aller faire. Il réussit à le faire. C'est là la différence aussi entre un directeur sportif très au fait de ses dossiers et qui sait ce qu'il veut, contrairement à Zubizarreta qui a tâtonné quand même dans ce dossier pendant très très longtemps.
Parce qu'en plus, il signe Milik cet hiver, c'est quand même dans le contexte économique le plus ouais. compliqué qu'il y ait eu à traverser l'Olympique de Marseille depuis 3 ans, l'Olympique de Marseille et l'Europe en général. Donc, arriver à signer Milik cet hiver…
Qui n'a que 26 ans, précisons-le aussi.
Qui n'a que 26 ans, qui, comme le disait Guillaume tout à l'heure, est un candidat pour la Pologne à l'Euro, qui ouais. va sans doute le faire s'il retrouve un peu de temps de jeu. Et puis, bon, ça reste quand même un joueur que tu vas choper à Naples,
ouais.
Qui a joué régulièrement en C1, qui a marqué régulièrement en C1. L'an dernier, c'est 3 buts en 3 matchs, je crois, en C1. Enfin voilà, c'est un joueur qui a fait une saison à 17 buts en Serie A, il n'y a pas si longtemps. Oui, il a eu des blessures, mais il faut se rendre compte de ce que c'est. C'est pour ça que quand je dis que c'est celui qui réunit le plus de critères dans l'idée qu'on se fait du grand attaquant depuis 3 ouais. ans à l'Olympique de Marseille, parmi tous ceux qui sont arrivés, voilà, je pense que je suis plutôt dans la vérité parce que il y a Balotelli aussi, mais il est resté 6 mois et 6 mois, c'est pas suffisant.
Voilà pour le dossier du grand attaquant qui est en train de se boucler finalement, enfin presque, pour les supporters marseillais. Martin, on va passer au deuxième sujet de ce mercredi mercato. On vous rappelle, si vous nous regardez sur Facebook, que l'émission est aussi à réécouter en podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Si vous nous écoutez en podcast, n'hésitez pas à nous noter, à commenter et à partager et en parler autour de vous aussi pour agrandir la communauté.
Si vous nous mettez le maximum de cœur et que vous mettez un commentaire sur Apple Podcast, vous recevrez une photo dédicacée des chaussons de Cyril Morin. Sachez-le.
Je ne suis pas sûr que ce soit très engageant. Deuxième sujet, Martin, on va parler du Real Madrid qui commence à s'activer dans les deux sens, le sens des arrivées avec la grosse annonce de mardi et le deal quasiment bouclé concernant David Alaba, même si le père d'Alaba qui est aussi son agent a mis un frein. Le Real Madrid reste très très largement devant dans le dossier et l'accord est quasiment ficelé de A à Z. Et à l'inverse, c'est Marca et As qui sont d'accord ce mercredi. Odegaard, la jeune promesse au poste de meneur de jeu, qui veut s'en aller parce qu'il n'a pas trouvé sa place au sein du Real Madrid cette saison. Ce chassé-croisé qui s'annonce, Martin, c'est un revirement complet de la stratégie du Real Madrid sur le mercato.
Ouais, c'est un sacré symbole. Ouais. C'est un sacré symbole parce que tu vas te séparer. Enfin, en tout cas, si c'est deux dossiers vont à leur terme, tu vas te séparer d'un joueur sur lequel tu avais misé, qui incarnait un peu ton avenir, qui devait être la nouvelle star du Real Madrid et qui n'a pas eu tant de jeux, sur lequel Zidane a finalement assez peu compté. Alors, c'est un joueur qui est un peu complexe, effectivement, à intégrer dans des systèmes, mais malgré tout, je pense qu'il avait le talent, quand on voit ce qu'il a fait à la Sociedad notamment, il avait le talent pour qu'au moins on lui donne sa chance. Et tu vas faire venir Alaba, qui est une référence mondiale à son poste, qui vient de gagner la Ligue des Champions, et qui est peut-être top 3 à son poste, hein, David Alaba. Donc là, tu reviens finalement à l'essence même de tes mercatos, tu reviens à ton ADN.
Ouais.
C'est-à-dire que le Real a énormément misé sur les jeunes ces dernières années. Ça a très peu fonctionné, très très peu fonctionné, parce que même quand on pense à Vinicius, Rodrigo, qui joue un peu plus, la plus-value vraiment qu'ils apportent à cette équipe du Real Madrid,
elle est minime.
Moi, je la vois pas. C'est-à-dire, c'est des joueurs qui, oui, Rodrigo, il va te claquer un triplé en Ligue des Champions, mais ça va jamais s'inscrire sur la durée. quand on voit Jovic aussi qui est parti qui est reparti à Francfort en n'ayant rien fait. Moi, ce qui est clair, c'est que le Real revient à son ADN. Je pense qu'à un moment, quand tu es le Real Madrid et que tu te prends pour Dortmund, ça peut pas marcher. Tu es le Real Madrid, tu reviens à ce qui a fait la force du Real Madrid, à ce qui a fait la grandeur du Real Madrid, à ce qui a fait que ce club est le plus grand de l'histoire du football, et tu signes David Alaba. C'est comme ça que ça marche à Madrid. Ça marche avec des stars, avec les jeunes, c'est très compliqué parce qu'on n'est pas dans un club qui sait donner du temps et qui développe des jeunes, encore moins quand Zidane est entraîneur.
Ouais, voilà, on s'est amusé à calculer les sommes engagées par le Real Madrid dans ces dossiers des jeunes pépites. Alors, le Real a voulu suivre la tendance du mercato, à savoir celle de trouver le futur ou les futurs stars à différents postes. Ils ont payé très cher pour ça, parce que c'était aussi la tendance sur le mercato. Mais Madrid s'est fourvoyé à de nombreuses reprises. Donc, il y a le chaos de garde qui est arrivé en 2015, qui a d'abord un peu joué à la Castilla, qui a été prêté à droite à gauche et qui devait revenir dans l'équipe cette année. C'est très, très limité. En 2017, on les a un peu oubliés, mais Théo Hernandez et Ceballos, c'est un petit peu pareil. On leur a pas donné beaucoup leur chance. Quand on voit la saison de Hernandez du côté de l'AC Milan, on peut se dire que quand même, il y avait peut-être de la place si on lui avait donné le temps et l'espace nécessaire pour grandir. Tu l'as dit, Vinicius, Reynier, Mariano Diaz, Brahim Diaz, tous ces noms-là. Madrid a engagé énormément d'argent dessus. On a fait le total 370 millions engagés depuis que Zinedine Zidane est entraîneur du Real Madrid pour ses pépites ou en tout cas ses joueurs en phase de développement. Voilà, peut-être à part Ferland Mendy qui a apporté et qui est désormais le titulaire au poste de latéral gauche, aucun d'entre eux n'est un titulaire indiscutable au Real Madrid. Et ça, c'est un vrai problème quand on voit que l'équipe madrilène de Zinedine Zidane, elle repose sur des joueurs dont la moyenne d'âge est largement au-delà des 30 ans.
Il y a un autre exemple, c'est celui de Militao, est le défenseur central le plus cher de l'histoire du Real Madrid. Et ouais, là, Madrid cherche à le prêter encore cet hiver, ce qui prouve bien que ça ne fonctionne pas. Mais parce qu'on est aussi, je pense qu'il y a une divergence de point de vue entre celui qui met tout en place sur le terrain, à savoir Zinedine Zidane, et sa direction, ouais, qui a peut-être une vision à plus long terme. Lui, Zidane, il veut gagner des matchs et il se repose sur ses lieutenants, sur ceux qui lui ont fait gagner la Ligue des Champions. C'est toujours pareil. Et aujourd'hui, Ramos, Varane, Kroos, Casemiro, Modric, Benzema, et ben c'est encore eux qui font gagner le Real Madrid. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, Zidane, il n'est pas là pour développer des jeunes, parce qu'un entraîneur du Real Madrid n'est pas là pour développer des jeunes. Il n'est pas là pour que le Real fasse des plus-values à leur vente. C'est pas ça la politique du Real, ça n'a jamais été ça. C'est pour ça qu'Alaba, en plus, il peut jouer à gauche, dans une succession potentielle de Ramos, qui, rappelons-le, est en fin de contrat, qui n'a toujours pas prolongé. Faire venir Alaba, c'est aussi un signe pour Sergio Ramos. C'est lui dire, écoute, Coco, ok, tu as été peut-être notre plus grand joueur avec Cristiano Ronaldo sur les 15 dernières années. En revanche, là, on t'a trouvé un remplaçant qui cassait tout du côté du Bayern Munich. Donc, si tu veux pas prolonger, c'est peut-être moins grave que prévu. Donc, c'est aussi un argument dans la négociation avec Sergio Ramos. Et en plus, là, c'est un vrai boost pour le 11 du Real. Parce que le problème de toutes les recrues dont on a parlé, c'est qu'aucune n'apportait un réel boost pour le 11 du Real. Aucune. Donc c'est là le vrai problème quand t'es le Real Madrid.
Et ça a été d'ailleurs l'erreur d'analyse stratégique concernant ces joueurs-là. Faire de Vinicius ou de Rodrigo les sauveurs du Real Madrid, c'est déjà un problème en soi parce que ces joueurs-là, il faut les intégrer petit à petit. Normalement, les sauveurs, ça aurait dû être des Eden Hazard, tous les gros joueurs transférés récemment. Ça ne doit surtout pas être des gamins de 18 ans qui découvrent en plus le football européen.
Et c'est une erreur de penser qu'aussi, tu as plus de chances.
Ouais.
D'avoir un talent en misant sur plein de joueurs entre 40, 60, 30, 20 millions d'euros, plutôt que de miser sur un à 90, 100 millions d'euros, les derniers sur lesquels le Real. Alors, Hazard, pour l'instant, ça ne marche pas du tout. Mais Bale, il a apporté certaines choses. Cristiano Ronaldo, il a apporté certaines choses. Et je ne vais pas remonter encore plus loin. Parce que c'est comme ça que le Real est allé chercher ses plus grands titres. C'est avec des stars. Voilà, donc avec Alaba, ils reviennent un petit peu à ça. Moi, de toute façon, je pense que là, c'est le braquage de l'année, Alaba. Donc, bravo au Real Madrid.
Voilà, Martin, pour ce deuxième sujet concernant le Real Madrid. On va faire une petite pause, un interlude info mercato avec Manu Longeon. C'est l'heure de Tutut Mercato. Allez, c'est l'heure du traditionnel tut-tut dans Mercredi Mercato. On rejoint Manu Longeon qui a des infos exclusives pour commencer pour Mercredi Mercato. Et on va parler, je crois, Manu, de l'OGC Nice. Qu'est-ce qui se passe à Nice actuellement ?
Ah bah Nice, déjà, Nice ne va pas très bien, ouais. C'est le moins qu'on puisse dire sportivement. Ils cherchent à se renforcer, ils ont déjà fait William Saliba en prêt sans option d'achat d'Arsenal. Ils sont effectivement sur Sako, mais ils ont du mal avec les négociations. Et aux dernières nouvelles, ils tenteraient de faire revenir Le Marchand et Seri, qui sont à Fulham et qui ne sont pas forcément extrêmement populaires et avec un gros temps de jeu, notamment pour Seri à Fulham. Et donc, ils sont en train de regarder l'opportunité de les faire revenir. Pour le moment, ça bloque un peu parce que Fulham, ils les ont vendus à Fulham pour plus de 30 millions. Et là, ils souhaiteraient les faire revenir quasiment gratuitement. Ouais. Donc, les négociations sont difficiles, mais ça fait partie des idées de l'OGC Nice.
Ce serait pas mal, notamment Seri au milieu de terrain qui pourra apporter beaucoup, beaucoup de fluidité. On sait que c'est ce qui manque beaucoup à Nice. On reste sur la Côte d'Azur, Manu, pour parler de l'AS Monaco et peut-être d'un futur départ à Monaco.
Oui, on a parlé hier, c'était une info Eurosport, que les négociations se compliquaient entre Galatasaray et Monaco et que du coup Galatasaray avait contacté l'Ajax pour se faire prêter Quincy Promes. Pour autant, les probabilités sont quand même très fortes qu'au final Henri Onyekuru aille à Galatasaray parce que c'est le choix du club turc, c'est aussi le choix du joueur. Il y a eu une rumeur comme quoi il y avait aussi des négociations avec Fenerbahçe pour le joueur, c'est faux. C'est juste une question d'argent et notamment par rapport à l'option d'achat où Monaco exigerait une obligation d'achat et on discute du montant. Mais les probabilités sont quand même très fortes pour qu'Henri Onyekuru soit à nouveau un joueur de Galatasaray.
Très bien. Et petite dernière précision, lundi et mardi, des infos concernant l'AS Saint-Etienne, notamment la piste Todibo. On sait que Saliba n'a pas pu se faire, donc un autre défenseur central pisté par Saint-Etienne.
Oui, Jean-Claire Todibo, parce qu'ils sont en manque du côté de la SSE à ce poste-là. Red Sox, malheureusement, est une recrue qui semble avoir des qualités, mais qui se blesse. Donc, ils ont besoin de renforts aussi à ce poste-là. Jean-Claire Todibo est clairement en galère à Benfica. Ouais. Il ne joue pas. Et non seulement il ne joue pas, mais le coach a bien fait comprendre qu'il n'avait pas du tout l'intention de le faire jouer, qu'il ne l'avait pas demandé, que son profil ne lui plaisait pas. Donc, il faut qu'il trouve un point de chute. Il y a Parme qui s'est positionné sur lui. Il y a eu aussi une rumeur comme quoi l'OGC Nice avait regardé son profil et la SSE s'est renseignée. La SSE lui propose du temps de jeu, de se remontrer et de reprendre de la valeur. Claude Puel a cette qualité-là et l'oreille par rapport aux jeunes joueurs. Maintenant, il a un salaire qui est un peu compliqué pour Saint-Etienne qui n'a pas d'argent.
Bien sûr. Voilà, c'était le tour de la Ligue 1 avec Manu Longeon. Manu Longeon, évidemment, à retrouver tous les jours sur Twitter, tous les jours sur Eurosport aussi pour des infos exclusives. Et nous, on enchaîne avec le dernier sujet de ce Mercredi Mercato. Allez Martin, on a fait une petite pause, mais on va revenir, une pause Ligue 1, on va revenir à des gros poissons. Et on va revenir notamment sur le cas David Alaba. Tu le disais, c'est peut-être le braquage de l'année pour le Real Madrid. Pourquoi ? Parce que c'est un joueur libre qui arrive au Real, possiblement. On s'est posé la question avant cette émission, quels sont les plus grands joueurs libres ayant été transférés ? Question difficile parce que ça remplit plein de critères. Est-ce qu'un Paul Pogba rentre dans cette sphère-là ? Voilà, quand il arrive à la Juventus à l'époque en provenance de Manchester United, il ne représente pas grand-chose sportivement. Derrière, 4 ans plus tard, il est revendu 105 millions d'euros, certes. Mais ce qui nous intéressait, c'était surtout les énormes stars qui ont quitter leur club pour rejoindre un autre immense club en étant libre et en coûtant donc 0 euro d'indemnité de transfert. On a décidé de faire un petit top 5 historique, Martin. Et on va commencer avec un joueur, je sais, qui te tient à cœur, un latéral droit brésilien qui a marqué son époque.
Bon, c'est le héros de mon enfance, hein. Champion du monde en 1994, champion du monde 2002, finaliste en 1998. C'est Cafu. C'est peut-être le meilleur, l'un, deux ou le meilleur arrière-droit du monde, qui part gratuitement de la Roma à Milan en 2003. Voilà, il reste 5 ans au club. C'est le grand Milan des années 2000 quand même. Il va gagner une Ligue des Champions. Et quand il arrive à Milan, encore une fois, il est champion du monde en titre. Et il coûte 0 euro. Donc là, on est quand même sur une des meilleures affaires de l'histoire. Mais voilà, ce top 5, c'est aussi pour montrer que à la base, c'est une des meilleures affaires de l'histoire hein, et que pour le Real Madrid. Et on va le voir au niveau du numéro 4, Cyril.
C'est David Alaba, tout simplement. Pourquoi David Alaba? Parce que tu l'as dit, il est titulaire dans le club champion d'Europe. C'est une référence au poste de latéral gauche depuis maintenant 10 ans, quasiment. Un peu moins, allez, depuis 5 ans. C'est aussi devenu une référence au poste de défenseur central, et ça, c'est très important.
Il n'a que 20 aussi, il est très
au
bon,
milieu il aussi, oui. Il est excellent partout. C'est vrai qu'avec l'Autriche, il a joué un petit peu plus haut. Et il va coûter 0 euros, en tout cas, en termes d'indemnité de transfert au Real Madrid. Et comme tu le disais, ça va être une plus-value immédiate pour l'équipe première du Real Madrid, ce qui n'est pas forcément toujours le cas d'un joueur qui arrive libre. C'est souvent des bonnes affaires, mais qui n'ont pas forcément un apport immédiat. Là, à là-bas, ça fait élever le niveau immédiatement.
Et ce qui est capital, il a 26 ans. Ça, c'est capital, parce que dans ce top 5, on va le voir, c'est souvent des trentenaires. C'est capital. C'est-à-dire qu'il va s'inscrire dans la durée avec le Real Madrid, ou alors le Real Madrid le revendra à un moment donné, mais il arrive en pleine force de l'âge. Ça, c'est très, très fort. Le numéro 3 n'est pas arrivé dans la force de l'âge à la Juventus Turin. C'est Andrea Pirlo, parce qu'il est arrivé à 32 ans. Mais il est resté 4 ans à la Juve. Bon, déjà, c'est au Milan AC, c'est le cerveau du Milan AC.
Ouais.
Ça va devenir le cerveau de la Juve. Derrière, ça va être… En fait, ça, il symbolise un peu le basculement Milan AC-Juve, lui, en Serie A, quasiment en Europe, parce qu'il ne la gagnera pas, la C1. Il échoue en finale. Ouais. Mais c'est 4 titres de champion et la Juve s'inscrit comme la seule force italienne avec Andrea Pirlo. Ça devient un emblème du club et c'est pas tout à fait un hasard.
C'est ça qui est très fort. Ouais, voilà. Exactement, ça c'est très très fort. Autre trentenaire, mais là un petit peu plus jeune et qui arrive vraiment, là pour le coup, dans la force de l'âge, c'est Michael Ballack qu'on a mis en deuxième position, transféré du Bayern à Chelsea pour 0 million puisqu'il était libre. 30 ans, on parle quand même à l'époque du titulaire au poste de meneur de jeu du Bayern Munich et de l'équipe d'Allemagne qui est une des meilleures équipes au monde. On parle d'un joueur qui est régulièrement dans les classements du Ballon d'Or. Alors, son transfert derrière à Chelsea n'est pas incroyable. La trace qu'il va laisser à Chelsea n'est pas incroyable, mais à l'époque, c'est quand même
dingo. Oui, mais au moment du transfert, c'est clair qu'il mérite cette place de numéro 2.
30 ans, et voilà, quand on parle de poste offensif, c'est aussi souvent cet âge-là, l'âge d'or des attaquants et aussi des meneurs de jeu, c'est 30 ans parce qu'on a à la fois l'expérience et encore les jambes suffisantes. À l'époque, Chelsea pensait faire une immense, immense affaire. C'était un petit peu plus compliqué sportivement, mais en termes de mercato pur, c'était fantastique.
Ouais, le numéro 1, on n'a pas discuté bien longtemps. Hein.
Non.
C'est le Bayern qui fait l'affaire. Là, pour le coup, c'est l'affaire du siècle. Avec Lewandowski qui arrive gratos en 2014. Lewandowski qui marche déjà sur la Bundesliga à cette époque-là, qui est une machine à but. Il a 26 ans, lui aussi.
Il a prouvé aussi en Ligue des Champions, mine de rien, ce qui est aussi un petit peu l'alpha et l'oméga, qui a aussi beaucoup prouvé en Ligue des Champions.
Ah oui,
c'est aussi l'alpha et l'oméga du marché des transferts, surtout pour le poste d'attaquant. Tu l'as dit, il remplissait toutes les cases. 26 ans seulement.
270 buts au Bayern et il aurait dû avoir le Ballon d'Or cette année. Donc, je crois qu'on peut difficilement faire mieux. C'est-à-dire que là, on est sur un poste rare, celui d'attaquant, le poste qui est valorisé le plus cher en plus. Un mec qui marque énormément de buts pour rien du tout.
Et le Bayern qui affaiblit aussi un de ses concurrents directs, mine de rien.
Donc là, il y a tout ce qu'il faut. Là, c'est clair et net, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, Lewandowski, Ballack, Pirlo, Alaba et Cafu. Peut-être les 5 meilleures affaires en rapport qualité-prix de ces dernières années. Et donc, on voit qu'Alaba reste quand même une des meilleures affaires de l'histoire. Et peut-être la meilleure affaire du Real Madrid, qui sait. Il faudra attendre un petit peu et voir ce qu'il va donner par la suite.
Martin,
oui.
C'est l'heure tant attendue, je crois.
Enfin, pas pour toi.
Pas pour moi, puisque je reste évidemment généralement. Attention. Donc, vous allez le voir apparaître si vous êtes sur Facebook derrière vous. Quentin Guichard va venir avec son petit panneau indiquant les scores dans cette saison de Mercredi Mercato concernant le fameux Mercaquiz. Martin mène 2-1 parce que Martin a gagné la semaine dernière concernant un certain Pierrick Capel. Quentin, es-tu là et que nous réserves-tu pour cette semaine ?
Salut messieurs, je suis bien présent, je suis bien là pour cette balle de break déjà. Voilà, Martin peut prendre le large puisqu'il a été…
Balle de match.
Que dire, tu as été époustouflant Martin, alors que Cyril visiblement n'a pas voulu trop se dépenser semaine dernière. Donc, balle de break déjà pour ce Mercacuiz. Est-ce que vous êtes chaud messieurs?
On est chaud. On rappelle juste le principe du Mercacuiz. Quentin qui égrène le parcours, mais alors il remonte très très loin d'un joueur et c'est le premier qui trouve. Jouez avec nous évidemment. Et si vous avez trouvé, bah, dites-le nous dans les commentaires sur Facebook, sur Apple Podcast, sur les réseaux sociaux. Vous venez nous chercher, vous venez nous chambrer.
Exactement, j'aurais pas dit mieux. Reste plus qu'à combattre maintenant, messieurs. Vous êtes prêts?
Ouais.
Allez, c'est parti. Je suis le fils d'Hamlet, lui aussi joueur professionnel et international, qui a notamment évolué 6 saisons en France de 1989 à 1995 sous les couleurs de Valence et de Issy. Le football est une affaire de famille puisque ma grande sœur Monica travaille à l'UEFA.
Ouais, mais fais-nous les tantes, les cousins, fais-nous les belles-sœurs aussi. Non,
mais je peux te faire tout l'arbre généalogique si tu veux, Martin. Je commence le football au FC Pionic où je deviens l'un des leaders. Je marque mon premier but officiel à l'âge de 17 ans contre le Chirac FC. En 2009, je marque 11 buts et des clubs comme le Lokomotiv Moscou, le Dynamo Kiev, Boca Junior, mais aussi Lille et Lyon s'intéressent à moi.
En 2008, non, 2007, ok.
En 2008, je fais des tests à Lyon, à Marseille et à Lille, mais je ne suis pas retenu car ces clubs me qualifient de trop frêle. Je m'expatrie en Ukraine et rejoins finalement le Métallurge Donetsk. Je m'affirme rapidement comme un joueur doué, finissant l'exercice avec 9 buts en championnat. Mes performances attirent le regard d'autres clubs ukrainiens. Je commence la saison suivante comme capitaine, seulement âgé de 21 ans. Je trouve le chemin des filets à 3 reprises en 8 matchs avant de quitter le club pour le champion du pays, le Shakhtar Donetsk.
Donc il est ukrainien ?
Absolument pas.
Et l'anneau ?
Non. Lors de ma dernière saison en Ukraine, je finis meilleur buteur. Convoité par de nombreux clubs européens, je suis alors régulièrement annoncé à Liverpool. En juillet 2013, je m'engage finalement avec le Borussia Dortmund, mais je me blesse à la cheville lors d'un match de pré-saison et me retrouve immobilisé 4 semaines. Cette blessure me prive de Super Coupe d'Allemagne remportée par mon club contre le Bayern Munich. Je fais mon retour en août pour le début du championnat. J'inscris un doublé et ouvre mon compteur en Bundesliga.
Barrios.
Non, contre l'Eintracht Francfort.
Non, mais vas-y, avance là.
Sur le plan individuel, je finis la saison avec 9 buts et 10 passes décisives. Le Borussia termine deuxième de Bundesliga et s'incline en finale de la Coupe d'Allemagne. Non, face au Bayern Munich. J'entame la saison suivante par un but et une victoire en Super Coupe d'Allemagne.
Mkhitaryan.
Ah mais oui, c'est lui, putain, non.
Messieurs, dames.
Non.
Henrik Mkhitaryan.
Bien sûr.
Martin, c'est une régalade, voilà.
Je vais juste dire au joueur de Dortmund qui marquait des buts, il faisait des passes, mais franchement, ouais, le tout début, là, les 90% de ton truc, bah, tu aurais pu commencer à Dortmund. Hein.
Vous vous souvenez pas du père de Henrik?
Si, si, bien sûr.
Bien sûr.
Ouais, ça fait le bilan commence à être lourd, la balle de break qui est transformée.
Ouais.
3-1.
Donc, Cyril, je
ne
sais
Martin.
Pas comment tu vas présenter Mercredi Mercato la semaine prochaine, mais je vous conseille d'être là parce que ça va être grandiose.
Voilà, on me fait signe en régie. Adrien Io, en régie, évidemment, qu'on remercie pour cette émission, nous dit qu'il faut absolument abréger notre calvaire.
C'est ça ?
Exactement.
Oui.
Exactement. On vous remercie, on vous rappelle que Mercredi Mercato est à retrouver chaque semaine en podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Vous nous notez, vous commentez, vous partagez. C'est aussi à retrouver ce mercredi sur Facebook. Et les meilleurs moments, Martin, pour te voir notamment, sont sur eurosport.fr.
Merci à tous. Merci Quentin, merci Adrien et merci Cyril. On se retrouve la semaine prochaine avec un Cyril qui présentera l'émission. Je ne sais pas s'il aura des vêtements, tiens. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Salut tout le monde.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.